Chapitre 27. Étienne de la Joaillerie. Ce ne fut qu'au milieu de la nuit, après une journée passée à boire et à errer, que Florent rentra chez lui, un peu ivre et dégoûté de lui-même. Comme la veille, il trouva en ouvrant la porte un pneumatique. Dans son ivresse, il crut que c'était le même. Il le jeta sur une table et, sans se déshabiller, se coucha. Le lendemain, en procédant à sa toilette, il aperçut le pneumatique. Il l'ouvrit et lut ce qui suit. « Cher monsieur Mougas, après votre départ, il m'est apparu que j'avais été injuste à votre égard. Je ne sais pas comment j'ai pu, ne serait-ce qu'un instant, vous considérer, même en partie, responsable des fautes de votre mère. Je m'en excuse sincèrement. Dès que vous aurez reçu mon mot, faites votre possible pour venir me voir le plus vite possible. » Je vous attends afin de régler les derniers détails de votre exposition et de vous renouveler de vive voix mes excuses. À tout à l'heure, cher monsieur Mougas. Croyez-moi, je vous prie, votre toujours fidèle, Ziva Vitzi. De même qu'il faut à la fleur amassée sur la route plusieurs minutes pour revenir à elle, il fallut à Florent un long instant avant que la joie, qu'en temps ordinaire cette lettre causait immédiatement au peintre, l'emportât sur l'amertume. Elle monta lentement en lui comme l'eau enfin donnée à la fleur. Ce fut le bas de son visage qui se colora d'abord. Puis ses yeux brillèrent de cet éclat qui avait fait dire à Daniel qu'ils étaient ceux d'un démon. Ses bras s'animèrent enfin. « Je reverrai Daniel avant son mariage » murmura-t-il en levant les yeux au ciel comme il avait pris l'habitude de le faire chaque fois qu'il pensait à la jeune fille. « Comment se fait-il, monsieur Ziva Vitzi, demanda-t-il dès qu'il fut en présence du directeur de la galerie, que vous soyez revenu sur votre décision. « Vous le saurez plus tard, cher ami. Pour le moment, nous n'avons pas de temps à perdre. Occupons-nous, si vous le voulez bien, de votre publicité. Que pensez-vous des panneaux des grands boulevards ?»« Je leur préfère ceux de l'avenue des Champs-Élysées. » « Ceux-là sont déjà loués, mais c'est insuffisant. » Je veux que tout Paris sache que Florent Mougas expose à la galerie Ziva Vitzi. Quant aux oriflammes, je vous annonce que j'en ai commandé 24. Il y en aura partout, devant la Chambre des députés, devant la Madeleine, devant l'Opéra, place Saint-Germain-des-Prés, place Saint-Philippe-du-Roule. Je les vois déjà, en imagination, flotter au soleil. Je vous signale qu'elles sont blancs et bleus. Ce sont les couleurs du succès. Bien que la joie qu'il éprouvait fût immense, le peintre se demandait ce qui avait pu provoquer un tel changement chez M. Ziva Vitzi. Que s'était-il donc passé la veille, après qu'il avait quitté le directeur de la galerie ? « Pourquoi me portez-vous brusquement tant d'intérêt ? » demanda-t-il. « Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas vous répondre encore. Ayez un peu de patience, cher ami. » Le jour du vernissage arriva enfin. Dès 3 heures de l'après-midi, les invités, des peintres, des gens du monde, des critiques, commencèrent à affluer. Mêlés à eux, Florent, qui ne connaissait presque personne, écoutait, sans paraître leur prêter d'attention, les propos flatteurs qu'on échangeait devant ses œuvres. Parfois, il pâlissait lorsqu'une critique ironique, même dure, parvenait à ses oreilles. Il n'en continuait cependant pas moins de guetter avec anxiété l'entrée. Daniel allait-elle venir, comme elle le lui avait dit, ou bien à 2 jours de son mariage, ne trouverait-elle pas une minute pour tenir sa promesse ? Ce garçon a beaucoup de talent, fit un homme, sans se douter que son voisin était justement le peintre. « Je ne trouve pas, » répondit la femme qui l'accompagnait. Florent la regarda. Elle était d'une beauté extraordinaire. « Vous ne trouvez pas ? « Cela ressemble à tout ce que l'on a déjà vu. » Évidemment, ce n'est pas très original, pourtant je trouvais qu'il y avait quelque chose. Il y a surtout cet éternel désir d'être original coûte que coûte. « Vous êtes amusante, Daisy. Cette peinture est une véritable salade russe. » La jeune femme venait à peine de prononcer ces mots que le visage de Florent s'illumina de bonheur. Daniel venait de paraître. Il se précipita à sa rencontre. « Que je suis heureux, Daniel » dit-il tout de suite. « Je craignais que vous ne veniez pas. Aujourd'hui est si proche d'après-demain. »« Je vous en prie, Florent, ne parlons pas de mon mariage. Laissez-moi admirer votre exposition. Vous avez fait des progrès extraordinaires.
Tout le monde n'est pas de cet avis.
L'essentiel est que les connaisseurs vous apprécient et ils ne peuvent manquer de le faire. Quelle force, quelle harmonie!
Tout en parlant, le frère et la sœur s'étaient avancés jusqu'au fond de la galerie. Il y avait là une petite salle où les visiteurs ne faisaient que passer rapidement.
« Je suis venu, mais je ne resterai pas longtemps, » dit Daniel. « J'ai tellement de courses à faire avant le dîner. »«
Quand vous partirez, je vous accompagnerai. »«
Je vous le défendrai, Florent. Votre place est ici. Je ne veux pas qu'à cause de moi, vous négligiez votre carrière. »
Le peintre baissa la tête. N'eût-il pas été ridicule d'insister ? La jeune fille n'était que sa sœur. Il l'oubliait trop souvent.
Vous avez raison, Daniel.
Cependant qu'il parlait, les deux jeunes gens n'avaient pas remarqué un homme de grande taille, pouvant être âgé d'une cinquantaine d'années, vêtu de noir, le visage à demi caché par une barbe noire, teinte certainement, qui les observait à la dérobée, en portant de temps à autre un monocle à son œil droit.
Je suis heureuse pour vous, dit Daniel. Tout le monde admire vos œuvres.
« Sauf cette dame, » fit Florent en montrant la visiteuse qui, tout à l'heure, avait laissé entendre que l'artiste n'avait aucune personnalité.
« Réjouissez-vous, mon cher frère, l'unanimité ne se fait que sur une œuvre médiocre. »«
Vous êtes charmante, Daniel, vous savez toujours dire ce qui fait plaisir. »«
Je le pense. »
Ils parlèrent ainsi pendant une dizaine de minutes, toujours sans remarquer l'homme à la barbe noire qui ne les quittait pas des yeux.
« Il faut que je m'en aille maintenant, » dit Daniel. « Je ne peux vraiment pas rester plus longtemps. »«
Je vous laisse partir, Daniel. Oh, ne croyez pas que cela ne me fasse pas de peine. Mais il le faut, n'est-ce pas ?»«
Oui, il le faut. »«
Et je ne vous reverrai plus ?»«
Pourquoi dites-vous cela ? Vous viendrez à mon nouveau domicile comme vous veniez à l'ancien. »
« Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. Je ne reverrai plus Daniel, la jeune fille. Vous allez devenir une femme mariée. Vous appartiendrez à un homme.
Ne serai-je pas toujours votre sœur ?»«
Oh, si !» Florent accompagna la jeune fille jusqu'à l'entrée. Il y avait tant de monde autour d'eux que la séparation se fit normalement. Mais dès que Daniel eut disparu, Florent sentit son cœur se déchirer. Il eut beau faire tout ce qu'il put pour ne pas pleurer, des larmes coulèrent de ses yeux. Une porte se trouvait près de lui. Il l'ouvrit. Elle donnait sur un bureau vide. Là, au moins, il pourrait s'abandonner à sa douleur sans être vu. Il s'assit dans un fauteuil et se cacha le visage dans ses mains.
« Daniel, ma Daniel chérie !» balbutia-t-il.
À ce moment, il entendit qu'on marchait à côté de lui. Il leva la tête. Un homme portant une barbe noire se trouvait dans le bureau.
« Vous êtes Florent Mauga ? » demanda-t-il.
« Oui, monsieur, » répondit le peintre, gêné d'avoir été surpris dans cette posture.
« Que me voulez-vous ? »
« Excusez-moi, j'ai frappé plusieurs fois à la porte. » L'inconnu était visiblement en proie à une grande émotion. Sa pomme d'Adam, qu'on apercevait sous la barbe, montait et descendait sans interruption. Ses grands yeux noirs, profondément enfoncés dans les orbites, brillaient.
« Laissez-moi, monsieur, ce bureau est un bureau privé. Vous désirez peut-être parler à monsieur Zivavitsi ?»«
Non, c'est à vous que je désire parler. »«
À moi ?»
L'inconnu sembla hésiter un instant. Il porta une main à son front. Soudain, il se raidit.
« C'est à vous, en effet, que je veux parler, Florent, mon enfant. » « Mon fils !»
Le peintre, qui était resté assis jusque-là, se leva d'un bond.
« Je suis votre fils ? » s'écria-t-il méfiant.
« Oui, pardonnez-moi, j'ai tout fait pour vous retrouver. Mais écoutez-moi plutôt. » Florent dut s'appuyer à la table pour demeurer immobile. Il avait la sensation si désagréable, quand elle se prolonge, de perdre l'équilibre.
« Vous n'êtes pas mon père !»
« Si, je le suis.
Puisque c'est Monsieur Marondier. »«
Qui est Monsieur Marondier ?»«
Mon père. »«
Non, Florent, on vous a trompé. Mon histoire, la voilà. Elle est douloureuse et je souffre de vous la raconter. Il y a 25 ans, j'étais un homme marié. Marié avec une femme dont les crises nerveuses, qui se sont manifestées peu après son mariage, avaient motivé son internement. J'étais donc libre, mais enchaîné pour la vie. À ce moment, j'ai rencontré votre mère, qui était une adorable jeune fille. Nous nous sommes aimés passionnément. Elle ne tarda pas à tomber enceinte. Pour la sauver du déshonneur, ses parents la conduisirent dans une clinique de Twickenham, aux environs de Londres. J'ignorais où elle était. Une semaine après votre naissance, ma femme, dont je porte encore aujourd'hui le deuil, est morte, vous pouvez le vérifier sur les registres de l'état civil de Twickenham. Quant à moi, ce ne fut que quelques années plus tard que j'appris qu'un certain Mougas, dont la femme était institutrice française en Angleterre, vous avait adopté sur la prière des parents de celle que j'avais tant aimée. Depuis, j'ai cherché partout, dans toute l'Europe, au hasard de mes déplacements, le ménage Mougas, sans jamais le trouver. Or, il y a quelques jours, en lisant les journaux, j'ai appris qu'une femme portant le nom de Mougas avait été arrêtée et que son fils devait exposer chez Ivanisi. J'ai été voir ce dernier. Le reste, vous le devinez. Mais tout cela, c'est du passé. Vous êtes là, devant moi, Florent. Si vous saviez combien je suis ému en vous regardant, vous lui ressemblez d'une manière frappante. Elle revit devant moi. Vous avez son regard, une certaine façon de vous tenir, de pencher le corps en avant quand vous parlez. Votre mère s'appelait Florence. Elle a peut-être voulu qu'on vous appelle Florent. À ce moment, la porte du petit bureau s'ouvrit. C'était M. Zivavitzi. À la vue des deux hommes, il eut un mouvement de recul. « Oh, excusez-moi, Excellence, » dit-il en refermant la porte. « Daniel n'est donc pas ma sœur ?» s'écria Florent qui faisait un effort pour contenir sa joie dans la crainte d'une déception. « Daniel est sans doute la jeune fille à qui vous parliez tout à l'heure. » « C'est cela. Oh, maintenant, je comprends tout. J'ai été victime d'une odieuse machination. On voulait m'écarter. Pour nous empêcher de nous aimer, on nous a fait croire que nous étions frères et sœurs. » Florent prit les mains de son père, les serra avec force. « Deux jours plus tard, si vous étiez seulement venu deux jours plus tard, tout était fini. Daniel était marié. Merci, merci. » « Pardonnez-moi si je vous quitte au moment où, après 25 ans de recherche, vous m'avez retrouvé, mais il le faut. »« Allez, mon fils !» En disant cela, le père de Florent tira une carte de visite de son portefeuille, la tendit au jeune homme. « Venez me voir le plus vite que vous pourrez, » ajouta-t-il avec tristesse. Florent prit la carte, lut « Comte Étienne de la Joaillerie ».